tous. Bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interviewe des familles, des aidants, des personnes âgées, ainsi que des professionnels du secteur. Dans ce nouvel épisode, Brigitte partage avec nous une histoire profondément personnelle et inédite. Celle de l'accompagnement en fin de vie de sa maman. Après avoir dû changer d'EHPAD à 3 reprises, Brigitte prend la décision courageuse, avec le soutien de sa famille, d'accueillir sa maman chez elle. Elle nous éclaire sur les raisons qui l'ont conduite à faire ce choix délicat et nous guide à travers les moments poignants et les leçons de cette expérience unique. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti! Bonjour Brigitte.
Bonjour Emeline.
Merci de m'accorder ce temps pour partager votre expérience sur la période de fin de vie de votre maman. Je vous laisse vous présenter et nous raconter un petit peu votre histoire.
J'ai effectivement accompagné ma maman depuis la mort de mon père, donc pendant 8 ans. Alors, pas toute seule évidemment, mais mes sœurs, la famille, mes enfants, mon mari autour. On a essayé de l'accompagner au plus près. Cependant, elle avait, mais on ne savait pas tout de suite, une maladie de dégénérescence cérébrale. D'ailleurs, c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer puisque ce n'est pas Alzheimer, mais ça peut y ressembler. On a, pendant plusieurs années, pensé qu'elle était plutôt déprimée que d'avoir vraiment des problèmes de dégénérescence cérébrale.
Okay.
Donc certains comportements n'ont pas été, par nous et par les soignants, vraiment accompagnés comme ça aurait été le mieux si on avait su ce qu'elle avait. Cette maladie, c'est la maladie à corps de Lévy. Et ça peut aider de savoir comment accompagner ça, parce que parfois, dans certaines manifestations de type hallucinatoire, auditive ou visuel, associées à évidemment des comportements de type paranoïaque, on peut penser que c'est Alzheimer, on peut penser que c'est psychiatrique, et donc on va donner des traitements qui aggravent en fait les symptômes.
Ils
sont très difficiles à gérer par les soignants et par l'entourage. Voilà, donc c'est un contexte quand même un peu compliqué, mais ça n'a pas démarré tout de suite comme ça. Ça a d'abord démarré par un traumatisme, un décès brutal et un deuil pathologique, au cours duquel on s'est rendu compte ce qu'on n'avait pas vu avant, puisque quand mon père était là, il y avait pas mal de choses qui étaient prises en charge par lui, il faisait un peu écran, il compensait beaucoup des difficultés de maman. Et donc, quand on s'est aperçu qu'elle n'était pas bien, on a pensé que malgré tout, il y avait des choses qu'elle pouvait faire d'une manière tout à fait normale, comme par exemple de déménager, parce que c'était une femme qui avait déménagé suivant son mari tous les 2 ans très souvent, donc elle était à l'aise avec l'idée de déménager. Et là, à 84 ans, tout à fait demandeuse, d'aller habiter plus en ville, puisqu'elle était sur le bassin d'Arcachon, mais il aurait fallu qu'elle conduise. Or, comme elle avait des difficultés de vision, c'était un peu compliqué pour qu'elle puisse conduire, et d'attention aussi, ce qui faisait partie de sa maladie. Personne ne souhaitait qu'elle ne reprenne le volant. Donc il fallait qu'elle soit complètement assistée chez elle, mais c'était beaucoup de solitude, puisque personne d'entre nous n'habitait juste à côté. Et donc c'était compliqué, ce qui a abouti à certaines tentatives qu'on n'aurait jamais faites si on avait su quelle maladie elle avait. Comme par exemple de lui proposer d'habiter dans un appartement en centre-ville, dans la ville dans laquelle j'habitais moi, puisque j'étais la plus proche de la famille en termes de distance kilométrique. Ça a été un échec, puisque ça a, chez elle, lancé des difficultés de peur, dans un environnement étranger, d'avoir des manifestations qu'on ne lui connaissait pas, mais qui se sont déclenchées à ce moment-là. Donc on a mis ça sur le compte de la dépression.
Suite au décès de votre papa, ouais.
Mais ça faisait quand même un moment que ça durait. Bon, c'était quelqu'un qui avait jamais été, qui était plutôt anxieuse, mais bon, pas d'une manière pathologique. Et cette expérience, on l'a faite le temps d'une année scolaire à peu près. Et puis ensuite, on l'a décidé avec elle.
C'était vraiment un appartement
C'était un appartement, un petit appartement, voilà. Avec un ascenseur moderne. en plein centre de la petite ville, enfin de la ville, donc c'était plutôt bien. Il y avait un petit café où elle pouvait manger, un petit café-restaurant. Il y avait même la restauration municipale qui était juste à côté, qui était bien aussi. Elle pouvait aller faire ses courses très facilement. Il y avait un petit parc à côté, enfin c'était tout à fait adapté. Et puis surtout, nous étions à même de passer le matin, l'après-midi, faire un petit tour de promenade avec elle. Enfin bon, beaucoup de services, le médecin était juste à côté. Enfin, il y avait beaucoup de services.
C'était pratique.
Vraiment très pratique pour elle. Et ça correspondait à une demande de sa part. Sauf qu'elle aurait préféré que ça se passe dans sa ville d'origine. Mais bon, ça c'était incompatible avec nos possibilités à nous, les enfants. Donc ça n'a pas fonctionné, elle s'est sentie fragilisée par ce déménagement, donc ça c'était la grande surprise, mais on ne pouvait pas arrêter ça tout de suite, donc ça a duré le temps d'une année scolaire. Profitant de l'été, pendant lequel nous étions plus disponibles, nous avons proposé qu'elle aille dans une maison de retraite, donc sur le bassin d'Arcachon.
D'accord.
Puisque c'est son environnement d'origine et le plus familier. Donc on a trouvé cette maison de retraite qui faisait partie du groupe Orpea, dans un très joli coin à côté du Moulot.
Ok.
Voilà, et c'était un ancien établissement religieux qui donc avait été pris en location par le groupe Orpea. C'était un petit peu vétuste, mais il y avait à peu près 35 personnes. Donc, comme format, pour elle, c'était
idéal.
C'était tout à fait adapté, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu l'envie ni le goût des grandes réunions, des grands établissements, etc. Mmh.
Et vous étiez à côté ou vous étiez à Bordeaux ?
Non, nous, on était dans la métropole de Bordeaux. Ouais.
D'accord.
Mais elle avait de la famille, des nièces, etc., qui est originaire donc, du bassin, qui pouvait assez facilement lui rendre visite. Sa petite fille, qui travaillait à ce moment-là sur le bassin, qui pouvait aussi venir lui rendre visite. Donc il y avait une proximité, puis elle pouvait se déplacer, sortir de la maison, c'était en terrain plat, aller jusqu'au bassin, enfin jusqu'à la jetée du Moulot, qu'elle connaissait. Donc elle avait quand même une autonomie importante. Son frère et sa belle-sœur venaient passer la prendre, venait du Pilat pour lui faire faire des promenades. Donc elle a retrouvé une espèce d'autonomie et de ressources propres à l'attachement qu'elle avait à ce coin-là. Pas mal de ses frères et sœurs étaient revenus dans la région. Elle-même, après avoir voyagé avec mon père en famille, on a été déplacés beaucoup, à l'étranger, à l'outre-mer, etc. Elle était donc revenue depuis plusieurs années dans ce coin-là. Ce qu'elle voulait, c'était de la proximité avec ses enfants. Donc, le fait de revenir près de chez nous, ça nous avait semblé un compromis intéressant, mais bon, ça n'a pas fonctionné pour elle. Donc, retour au pays, mais cette fois dans une maison de retraite, puisqu'on n'avait personne sur place qui pouvait assurer le passage quotidien, etc. Pendant qu'elle était dans cette première maison de retraite, donc du groupe Orpea, le temps de s'habituer à cet environnement, elle a quand même commencé à manifester des hallucinations visuelles ou auditives, de penser qu'on parlait d'elle, qu'il y a des gens qui ne voulaient pas être avec elle, il y avait des souvenirs qui revenaient qui étaient assez traumatisants. Donc elle n'était pas complètement en confiance, mais c'était ce qu'on pouvait faire de mieux à ce moment-là. De 2 ans, on nous a annoncé que la maison allait fermer. Et que le groupe Orpea proposait un relogement des personnes pour aller dans une autre maison de retraite, pas très loin. C'était là aussi une grosse maison qui n'appartenait pas non plus au groupe Orpea, qui est par contre doublée de volume en termes de nombre de personnes accueillies. Donc là, elle est passée de 35 à 70 personnes. D'accord. Avec un établissement très peu pratique. Quoi. Alors, c'est très beau, une belle terrasse, une véranda, etc. Mais pour se retrouver, c'était un peu compliqué pour elle, le changement, etc. Donc là, ça a fait une très grosse perte de repères. Et il y a eu très peu de temps, finalement, d'adaptation pour qu'elle puisse visiter, venir plusieurs fois, enfin s'habituer à ça. Et nous, on a hésité,
Et ils vous ont prévenu combien de temps avant ?
Ils ont prévenu 3 mois avant, quelque chose comme okay. ça.
Est-ce qu'ils ont informé les résidents ? Comment ça s'est fait tout ça ?
Oui, on a été informés. Oui. Mais la proposition, c'était soit elle déménage dans cette maison-là, soit vous vous débrouillez autrement.
D'accord.
C'était quand même un peu compliqué.
En 3 mois, de trouver une solution.
Voilà. Mmh. C'était une époque pré-Covid, qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans les maisons de retraite non plus à ce moment-là. Ce qui était pas intéressé positif de notre point de vue, c'est que ça n'a changé pas beaucoup d'endroit de localisation, puisque c'était quand même Arcachon, Moulot, bon, c'est assez proche. Par rapport à son frère et à sa belle-sœur qui venaient passer la prendre régulièrement pour la faire promener, on avait pensé que ce serait à peu près similaire, sauf que pas du tout. Et par rapport à ses déplacements à elle, on pensait aussi que c'était similaire, sauf que ce qu'on n'a pas mesuré, c'est que la ville d'hiver, c'est en pente. Elle est restée 1 an et demi. C'est là qu'elle a commencé vraiment à développer des troubles plus importants, d'hallucinations. Elle me montrait par la fenêtre, mais tu vois là, en face, dans cet immeuble, il y a quelqu'un qui me regarde. Il n'y avait pas d'immeuble en face.
D'accord.
Donc, des choses comme ça, des voix, entendre des voix, etc. Des gens qui voulaient pas qu'elle s'asseye à la même table qu'eux. Évidemment, on a consulté les gens qu'on pouvait consulter par rapport à ce genre de problème. Et ce n'est que vraiment les tout derniers examens dans sa vie qu'on a commencé à parler de cette maladie à Cordelévy. Et sinon, donc, elle était assommée avec des antipsychotiques qui ont commencé à lui donner des problèmes aussi de tremblements. Donc elle ne pouvait pas s'alimenter correctement toute seule parce que ça tombait à côté. Enfin, donc, des tas de choses comme ça qui sont dégradées. Elle a commencé à maigrir, oui, sérieusement. Et là, au bout d'un an et demi, le groupe Orpea nous a annoncé que cette maison allait fermer. Et que donc, ils déménageaient les résidents. Et par contre, il y avait une maison à Talence. Moi, j'habite pas très loin de Talence. Donc, on s'est dit, bon, allons voir. On a regardé d'autres maisons, des maisons indépendantes, pas de ce groupe, etc. Mais il n'y avait pas de place, c'est pareil. Donc on a choisi Talence, après avoir pris des renseignements, enfin des rendez-vous avec d'autres maisons de retraite, mais il n'y avait pas de place à court terme. Or, c'était impérieux, quoi, il fallait trouver.
Mmh. Vous étiez prioritaire.
On était prioritaire, mais quand même, il fallait faire vite, il fallait se décider vite. Sinon, les places étaient prises.
Et donc, encore une fois, à ce moment-là, ils vous préviennent combien de temps à l'avance ?
Je dirais que c'était à peu près
3 mois aussi.
6 mois, peut-être, parce qu'il y avait l'été au milieu. Donc, peut-être avant l'été, pour une intégration. Enfin bon, il fallait se décider. Ce n'est pas tellement que prévenir à l'avance, c'est se décider vite.
De la suite.
Et qu'on prévienne 6 mois à l'avance en disant, vous avez 15 jours pour choisir.
Ah oui. Donc, vous aviez combien de temps ?
Ou qu'on vous prévienne 3 mois en vous disant... Oui. Pour la personne qui a déjà perdu ses repères, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est pour la famille, c'est plus compliqué. Mais pour la personne qui est déjà, de toute façon, à moitié ailleurs, qu'on la prévienne 3 mois avant et 6 mois, elle ne se rend pas compte. Ma mère, en tout cas, ne se rendait pas compte de quand elle allait partir. Ça aurait pu être demain, ça aurait pu être dans 6 mois.
Oui, elle n'avait pas la notion du temps.
Non, elle n'avait plus ça.
Mais bon, elle changeait quand même encore d'endroit.
Voilà.
Donc elle avait fait un premier séjour de...
100 personnes, cette fois, l'établissement. Et tout à fait un autre style de maison. Donc là, c'était pas du tout vieillot, c'est tout neuf. Enfin, tous les couloirs peints dans des couleurs pastel qu'on ne différencie pas quand on a une vue abîmée. Donc ça sert à rien de les peindre dans des couleurs différentes. Quasi hospitalier.
Elle avait quel âge à ce moment-là ?
Et à ce moment-là, elle avait 88 ans. Donc ça faisait 5 ans après le décès de mon père. Elle était quand même... bien diminué, mais essentiellement par les antipsychotiques qu'on lui faisait prendre, qui l'a soulagé en partie de ses hallucinations, en partie, mais qui faisait qu'elle avait beaucoup de raideurs, de tremblements, etc. Donc elle se sentait handicapée et qu'elle devait faire de la kiné pour compenser ses raideurs, qui lui occasionnaient des douleurs cérébrales, etc. Enfin bon, le package. Donc du coup, elle est arrivée là, donc les gens, la plupart très gentils, plein de bonne volonté, un kiné, oh le kiné, il est vraiment mignon, ce petit kiné, vraiment, il est très gentil, il me fait faire des exercices, il insiste. Donc, quand elle était dans ces moments de lucidité, elle était capable d'apprécier les personnes. tu sais, j'ai parlé avec cette dame, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas du tout de faire des ateliers parce que je n'entends rien. Donc elle m'a proposé des promenades. D'accord. Donc elle était contente du contact avec le personnel. Par contre, elle n'a plus mangé. Elle s'est progressivement dénutrie et il faut dire que pour avoir mangé à plusieurs reprises avec elle, à la cantine, c'était juste vraiment pas mangeable. Bah, elle a cessé de manger, donc elle ne mangeait que les desserts ou les gâteaux que je lui apportais. Du coup, elle ne voulait plus descendre, ça ne l'intéressait pas d'être dans le bruit et avec des gens qui lui parlaient, elle ne comprenait pas ce qu'ils lui disaient, pour manger, pour voir des trucs qui la répugnaient dans son assiette. C'est important pour moi de dire ça parce que cette histoire de nourriture, j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était tellement important, c'est la dernière chose qui reste finalement, un plaisir sensuel. Finalement, le plaisir, c'est ça. Donc le thé, ça je l'ai vu plusieurs fois, il arrivait tiédasse avec un sachet jeté dans de l'eau tiède. Et puis petit à petit, il y a d'autres choses. Donc la douche, 5 minutes, montre en main, avec quelqu'un qui lui criait dessus parce que comme elle était sourde, il fallait crier. Elle a réussi à se battre quand même pour obtenir qu'on lui fiche la paix, qu'on ne lui fasse pas une douche tous les jours. Vraiment, ça c'était très grave. C'était très grave, c'était très maltraitant. Et ce n'est pas les gens, c'est vraiment le timing imposé. Les soignants sont confrontés à ça, et les aidants sont confrontés à ça. C'est compliqué pour la famille parce qu'on doit expliquer à la personne qui est là que c'est comme ça et qu'on n'a pas de moyen d'obtenir que ce soit autrement. On est dans une maison de retraite publique, on se dit les moyens ne sont pas très importants, mais quand le coût du service est de 4000 euros par mois, on commence à se demander si c'est vraiment correct. Là-dessus, changement de direction, évidemment, changement de personnel, et du personnel de remplacement, pas forcément formé, parfois maltraitant, ce qu'elle a vécu. Donc, les gens qui allument la lumière quand vous dormez, qui soulèvent votre drap pour voir si vous avez une couche. Ah, mais elle n'a pas de couche! Oh. Et qui s'en vont en éteignant la lumière et en claquant la porte.
C'est elle qui vous a raconté tout ça?
Oui. Oui, puis c'est pas, là, c'était pas des hallucinations, parce que c'était très précis et c'était factuel, pas du tout dans un état de délire. Quoi. Il y avait les états de délire et puis il y avait les moments où elle était tout à fait consciente. Il y a eu pas mal d'épisodes comme ça. Et puis, elle a commencé à être vraiment dénutrie. Donc, le médecin a réagi assez tardivement. Moi, je l'ai vu voir à mon médecin généraliste, qui a fait faire des examens plus poussés et qui s'est rendu compte qu'effectivement, elle était déjà très dénutrie.
Mais ça veut dire qu'à l'EHPAD, il n'y avait pas de suivi par rapport à ça ?
Ils prenaient l'attention et puis voilà, c'est tout. Ils ne mangent pas beaucoup, ils prennent l'attention, il faut la faire boire. Et dans le dossier, quand j'ai repris le dossier, quand je l'ai ramené chez moi, j'ai constaté qu'il y avait mis 10 kilos de plus que ce qu'elle avait à l'entrée. C'est-à-dire que la transmission du dossier
entre les deux maisons
de l'Oasis jusqu'à Relais d'Essence s'était fait avec 10 kilos de plus à l'arrivée. Et donc, il ne la voyait pas dénutrie, puisqu'il l'a laissé, il l'a pesée tout habillée, je ne sais pas quoi. Enfin, ils ne se sont pas rendus compte. La Orpea, depuis le début. Quand est-ce que ça a commencé? Ils ne l'ont pas pesée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée, elle pesait 42 kilos quand même, 6 mois plus tard. Là, il y avait carrément une absence de surveillance incroyable et imputable directement aux infirmiers, enfin aux gens qui pèsent, qui mesurent. Les deux fois de suite, je l'ai trouvé ne voulant pas se lever pour aller manger, pour descendre. Ça ne sert à rien, quoi. Si elle ne veut plus, si c'est trop dur pour elle, etc., autant que je la ramène à la maison, je la sors de là et je la ramène à la maison. Ce qui avant n'était pas possible. Parce que j'avais un de mes enfants, le dernier de mes enfants qui était encore à la maison et qui avait des difficultés elle-même à se mettre en route dans sa vie d'adulte, disons, donc sortait juste du bac. C'était pas possible de faire cohabiter les deux, quoi. Ça aurait été vraiment trop lourd pour elle, pour moi, enfin pour les deux. Là, c'était possible puisqu'elle était partie en études, donc elle est venue au mois de septembre, octobre. Au mois de décembre, elle était hospitalisée par mon médecin, donc elle était hospitalisée à Bagatelle, pour voir si on ce qu'on pouvait faire pour la remettre peut-être un peu sur pied. Donc ils l'ont dopé un peu, ils ont fait... Et puis après, hydratation en continu, ça veut dire perfusion constamment, etc. La peau très sensible, enfin bon, je vais passer les détails. Et ça, soins palliatifs à domicile, c'est pas vraiment possible, pas vraiment coordonné, je sais pas, c'était compliqué à mettre en place vraiment. Donc c'est mon médecin qui a fait le suivi, vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup investi par rapport à ça. On a tenu comme ça jusqu'au mois de juillet, puis au mois de juillet, elle est partie. Donc moi, j'avais mis en place, en fait, à la maison, l'accompagnement, parce que je ne pouvais pas être là toute la journée et faire tout ça toute la journée, c'est trop difficile. J'avais la possibilité de faire autrement, de rémunérer deux personnes qui se relayaient sur la partie jour. Et moi, j'assurais les nuits, ce n'était pas facile forcément, mais ça a fonctionné. Donc à la maison, avec tous les aménagements, les infirmières, etc.
Donc après Bagatelle, elle est venue chez vous?
Voilà, en sortant de l'hôpital. Elle était déjà chez nous.
D'accord.
Puisqu'elle est venue au mois de septembre. Elle est sortie septembre ou octobre, je ne sais plus. Et c'est en décembre qu'elle a dû être hospitalisée parce que la renutrition, etc., ne fonctionnait pas. Les analyses n'étaient pas bonnes. Donc, hospitalisée pour voir si on pouvait envisager de faire une transfusion ou pas. Puis finalement, elle était trop fragile et les chances de succès étaient trop faibles pour qu'on fasse transfusion plaquettaire. Donc, on est rentré à la maison et là, on était dans le palliatif jusqu'à la fin, enfin 6 mois.
Vous avez dû mettre en place des choses chez vous pour qu'elle puisse venir?
Non, elle me laissait notre chambre.
Pas besoin d'un lit médicalisé?
Au début, non. Puis après, ça a été plus compliqué parce qu'elle sortait du lit et parfois elle tombait. Elle ne s'est rien cassée, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle se blessait. Par contre, la peau, une peau très fragile. Et puis, il y a eu un moment où il a fallu mettre un lit avec barrière, faire en sorte que, pas l'attacher, mais disons, bien border, mettre des coussins, essayant de... pas être dans la contention, mais de faire en sorte que...
Elle soit en sécurité.
Voilà. Au moment, elle n'a plus assez de force pour se lever par elle-même.
Elle se nourrissait à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, oui, elle se nourrissait, pas de grosses quantités, mais on essayait de lui donner du plaisir, parce que je ne sais pas de la nourrir, on lui donnait des petits suppléments de protéines pour que les muscles soient suffisamment... alimentée pour pas qu'elle ait des douleurs dans les muscles, hydratée beaucoup, des petits gâteaux, une folie à un moment avec les pains au raisin, le ski crémeux dans le pain au raisin uniquement. Et donc, ah, ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, donc, l'accompagnement, c'était ça, c'était faire en sorte qu'elle ait du plaisir, qu'elle soit contente de sentir qu'il y avait des proches qui étaient là, mais ce n'était pas toujours le cas. Parfois, elle prenait les personnes qui étaient là dans la journée, toujours les mêmes, parce qu'on a essayé de passer par une association, mais ça changeait trop. Donc, ce n'était pas confortable pour personne, parce qu'il fallait toujours expliquer les transmissions, etc. Donc, j'avais salarié moi-même 2 personnes qui venaient de manière indépendante, quoi, qui faisaient ça de manière indépendante, qui avaient le diplôme de... mais qui exerçaient à la fois dans des structures et...
À leur compte.
Voilà, à leur compte. Donc ça s'est bien passé entre les 2 personnes, les transmissions, les infirmières, bon, puis le médecin qui passait, et puis mes sœurs qui passaient, mes neveux et nièces.
Vous étiez à la retraite à ce moment-là, et elle est restée combien de temps?
Au total, 9 mois.
Au total, 9 mois. Et ça veut dire que pendant ces 9 mois-là, vous, vous y avez consacré...
Moi, j'étais là la nuit, j'étais là le matin en attendant que les personnes arrivent, je venais... dans la journée, j'étais assez présente aussi, mais on avait constaté que s'il y avait trop de monde, c'est-à-dire si on était 2 personnes à être là, on se marchait un peu dessus. Et puis, elle commençait à plus trop être présente. Donc, qu'il y ait quelqu'un qui lui tienne la main, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, du moment qu'on lui donnait ce qu'elle avait, qu'on lui mettait le coussin comme il faut, enfin bon, des choses comme ça, que ça serait qu'elle avait chaud, que... Puis mon mari, qui est enseignant, était assez souvent présent, donc il se mettait dans le salon pour corriger ses copies et tout ça. Elle dire un petit mot de temps en temps, comme ça. Bon. Mes enfants passaient souvent aussi, donc elle avait quand même toujours un peu de mouvement, mais pas toujours la même. Et il y avait des repères, mais aussi de la variété. Et moi, j'allais prendre du temps ailleurs, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas tenu.
Bien sûr, ouais.
Et ça, je ne sais pas comment font les gens qui sont 24 heures. Je pense qu'il y a une bonne occasion de devenir fou.
Et vous, quand vous avez pris votre maman chez vous, comment cette idée-là, elle est venue? Vous êtes dit, en fait, il n'y a pas d'autre solution? Parce qu'elle aurait pu aller dans un autre EHPAD, vous n'aviez plus confiance?
Oh non, c'était plus... C'était Enfin, c'était hors de question de la redéménager, quoi. C'était vraiment hors de question de la redéménager à un endroit où il fallait recommencer justement cette intégration, cet accompagnement. Donc, l'intégration, il n'y a pas eu lieu, il n'y a pas eu. Hein. C'est pour ça que vous me parliez de ça tout à l'heure. Il n'y a eu aucune intégration, aucune volonté
trois.
D'intégration.
Non, aucun des trois.
Aucune proposition. Non, dans le dernier.
Dans le dernier, d'accord.
Non, dans le premier, très bien, mais il y a eu moins de monde.
Oui.
Dans le deuxième, il y a eu des efforts. Dans le troisième, absolument, un effort. C'est pas facile non plus, parce que quand on a affaire à des personnes qui sont déjà un peu repliées sur elles-mêmes, ça demande beaucoup plus d'investissement intégré. Quand on a des gens qui veulent bien faire des activités, etc. Ma mère ne voulait plus du tout faire ce genre de choses. Elle était trop peureuse, pas confiante en elle, pas confiante aux autres, etc. Donc, c'est compliqué de faire de l'intégration. Mais il y a eu une dame qui est venue pour des ateliers mémoire, mais bon, il fallait entendre ce qu'elle disait. La personne n'était pas habituée à travailler avec des personnes sourdes.
Bien sûr,
c'était compliqué, quoi. Donc, c'était ça. Puis, à partir du moment où elle voulait plus se lever quand elle était là-bas, je me suis dit, moi, elle vient chez moi, je vais la faire bouger. On va faire le tour du jardin, pareil, je vais lui faire couper des légumes, des machins, faire des choses ensemble, plier du linge, faire des petits trucs, enfin bon, des choses qu'elle pouvait faire quand elle était assise, tranquille, et ça la rassurait. Alors que là-bas, elle n'avait rien à faire en plus et elle ne pouvait rien faire toute seule. Pour moi, c'était une évidence. Alors, c'était peut-être mon confort moral ou affectif. Disons que je savais que là-bas, de toute façon, ça n'allait pas. Quand j'arrivais, donc je frappais, donc elle croyait que c'était une infirmière ou quoi qui venait, donc elle ne bougeait pas. Et puis quand elle me voyait, elle me reconnaissait, elle disait « Ah, mon ange !» Elle attendait ça, quoi. Elle avait vraiment besoin de notre proximité. Mes sœurs ou moi, hein, d'ailleurs, c'était pareil. Mais elle n'était pas attachée à ma personne. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, ma sœur aînée ne pouvait pas, ma plus sœur plus jeune ne pouvait pas. Et moi, j'avais la disponibilité, l'espace. Et je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, que faire d'autre ? Mais en tout cas, dans l'intention et dans le soutien, il n'y a pas eu de discussion, par exemple, d'opposition de la part de mes sœurs quand j'ai dit « je pense que ça serait bien que je prenne maman à la maison
».
Elle n'est pas bien là où elle est, visiblement. En fait.
Tout le monde a suivi.
Tout le monde a suivi. Mes sœurs m'ont dit « est-ce que tu es sûre ? Ça va aller pour toi ? Comment tu vas t'organiser ? N'hésite pas à demander si tu as besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà, elles sont venues plus souvent. Mon mari m'a dit tout de suite « si c'est ça que tu veux, on va s'organiser. » Mes enfants ont dit « bien sûr, on va venir aussi. » J'ai pas eu l'impression d'être seule à mener ça, quoi. C'est ça aussi qui était possible. Maman n'avait pas des gros revenus, mais bon, payer 4 000 pour la maison de retraite ou dépenser 3 000 euros ou 3 500 euros pour payer des personnes
sûr,
pour s'occuper, c'était
même,
parce
finalement.
Qu'elle mangeait qui nous coûtait beaucoup de sous, donc que l'un dans l'autre, ça s'équivalait, et pas de raison de. Économiquement, en tout cas, ça tenait la route, puisqu'il n'y avait pas de loyer à payer, vu qu'elle était chez nous, donc voilà. Je ne dirais pas que je suis contente. Je me sens raccord avec ce que j'ai fait. Je suis reconnaissante à mon mari d'avoir rendu ça possible, parce que c'est quand même pas évident d'avoir quelqu'un qui est déprimé, malade, en train de finir de vivre sous son toit. C'est moins facile que d'avoir un petit enfant qui apprend à parler ou à marcher.
Oui, ça a été très réfléchi.
Ah oui, c'est à l'issue d'un choc de l'avoir. Elle était à un point de non-retour, quoi, dans son comportement par rapport à l'endroit où elle était, que je me suis dit, ça ne peut pas être pire à la maison pour elle. Avant, je ne savais pas. Avant, je me disais, bon, elle voit quand même du monde, des gens de son âge, même si ça ne lui plaît pas trop, elle a des petites histoires à raconter sur les uns, sur les autres. Enfin bon. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait plus de lourdeur et de souffrance et de mal-être et de violence physique, parce qu'être tiré pour aller être mis dans la douche, c'est la violence physique. Donc, pour moi, ça a été le
la goutte d'eau.
Stop, quoi. Pas la peine de continuer comme ça, il n'y a pas d'avantage. Après, il fallait savoir qu'il y avait une possibilité qu'elle puisse aller se faire soigner, maison de repos ou soins, etc. Ou si ça, c'était pas. Même ça, c'était trop tard. À partir du moment où ça, on m'a dit que ça, c'était trop tard, il fallait juste accompagner, quoi. Je pense que.
Si c'était à refaire, vous referiez la même chose.
Oh oui. Oh oui, sans hésitation. J'essaierai d'anticiper un peu plus, de me renseigner un peu plus sur les dysfonctionnements physiques, les choses à prendre en considération pour aménager un peu plus, un peu mieux. Parce que ça, on l'avait fait, mais ce n'était pas suffisant dans le détail. Et donc, ça aurait pu lui éviter quelques blessures, de se faire mal en se cognant dans un meuble, enfin, voilà, de savoir à quel point elle avait la peau fragile, des choses comme ça, que quand il y a des pansements, c'est des souffrances supplémentaires, etc. Enfin, bon, c'est des choses médicales, mais que évidemment, je ne connaissais pas. Et puis pareil, pour les histoires de lits, il faut faire en sorte d'avoir le meilleur matériel possible, parce que ça se joue à ça, à la technicité aussi, pour les derniers moments.
Et justement... pour avoir tout ce matériel médicalisé, spécialisé, est-ce que vous êtes considérée comme aidante et est-ce que vous avez le droit à des aides, sachant que vous prenez votre maman chez vous?
C'est pas en tant qu'aidant, je pense qu'on a des aides là-dessus, c'est plus en termes de prescription médicale et de la personne, pour la personne, et de mutuelle de la personne.
D'accord. Donc, il n'y a pas de statut reconnu.
En tant qu'aidant, pour pouvoir aménager le logement, par exemple, ça s'adresse à la personne. C'est la personne bénéficiaire de ça, je pense.
Donc, à travers la sécurité sociale et la mutuelle.
Voilà, la mutuelle, l'ARS, etc. Donc, oui, il y avait des aides pour elle, pour la prise en charge, prendre en charge une partie des frais, par exemple, liés. C'est la prestation d'autonomie, l'APA.
D'accord.
Donc on avait fait cette demande. C'est très bien que ça existe, mais c'est totalement insuffisant, évidemment. Ça, c'est ce que reçoivent les établissements, les EHPAD. Ils reçoivent ces aides-là au nom de la personne, les interventions auprès des personnes, du personnel soignant, donc pris en charge par l'ARS, sur le calcul de cette autonomie. Donc on vous fait une douche. Il y a un tarif pour ça. Qui est versé à la maison de retraite, ce tarif il correspond à 5 minutes du temps de travail. Donc on pourrait penser que le tarif que paye la famille ou la personne, ça permettrait d'avoir 10 minutes au lieu de 5 minutes. Mais je ne crois pas que c'est utilisé pour ça. Après, c'est peut-être des mauvaises pensées de ma part. Alors elle est morte à la maison. Mais je trouve que ma sœur aînée était là, donc on était deux avec elle. C'était pas compliqué, parce que sur la fin, évidemment, comme elle ne pouvait plus la perfuser, c'était plus possible, ça tenait plus. Ouais. Elle commençait à avoir des escarres, etc. Donc pour la douleur, on lui a donné de la morphine, puis bon, ça a lâché un peu naturellement, disons. Donc voilà l'histoire. C'est important si ça peut donner des pistes de réflexion. Parce que c'est apaisant aussi de se dire qu'on a fait ce qu'on pensait être le mieux, à tort ou à raison, mais ce qu'on pensait être le mieux, du mieux qu'on a pu pour une des personnes qui a fait la même chose avec nous dans notre vie.
Merci Brigitte d'avoir partagé. C'était super.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de l'INESTI, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.